Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat. Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante du mot volonté. C'est d'une part la faculté de déterminer librement ses actes en fonction d'un motif rationnel, pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et la deuxième définition, toujours de la part de Larousse, dit la disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. Il parle d'avoir, par exemple, une volonté de faire. Certains hommes ont reconnu la puissance de la volonté. Par exemple, Mahatma Gandhi a dit ceci: la force ne vient pas d'une capacité physique, mais d'une volonté indomptable. Et Gandhi a montré, a démontré dans sa vie cette volonté indomptable. Baruch Spinoza, philosophe hollandais, a dit ceci: la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Et la Bible parle du concept de la volonté. Par exemple, dans Philippiens chapitre, je m'y rapporte pas, dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, nous lisons ceci: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il y a le mot, au début du verset 13, il y a le mot « car ». Donc, c'est associé avec le verset 12 du même chapitre, que je lis: « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Il faut donc fournir un effort, il faut se donner de la peine, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc Dieu nous aide, parce que c'est marqué dans le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est très personnel. Dieu nous aide et Dieu nous encourage. Et Dieu nous a donné un chemin à parcourir. Et pour parcourir ce chemin, il y a des directives. Nous avons été appelés à vivre, à mener une autre vie que ce que nous avons connu auparavant, avec une destination, un avenir éternel. Et Dieu nous permet justement de nous remettre ceci en tête chaque année, à la fête des tabernacles, dans des conditions propices, dans de très bonnes conditions, où nous pouvons être ensemble, nous pouvons manger ensemble, passer du temps ensemble, et bien entendu, entendre la parole de Dieu expliquée. Donc il y a des directives, et du fait qu'il y a des directives, il y a des conséquences. Des conséquences quand nous les observons, et aussi des conséquences, bien entendu, si nous ne les observons pas. Matthieu chapitre 7 et le verset 21 nous parle justement de ces conséquences. Dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21, nous lisons ceci: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a des conditions donc qui sont énumérées ici si nous voulons être dans le royaume de Dieu. Il y a un avant, avant notre conversion, et il y a un après. Nous commençons à comprendre ce qu'il faut faire. Le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrait. Et nous avons, à partir du moment où nous commençons à comprendre que Dieu nous aide, que Dieu nous dirige, nous pouvons, nous allons porter des fruits. Il y a quelque chose d'autre à considérer. Il faut que nous soyons logiques avec nous-mêmes. Nous avons un Père céleste parfait. Nous avons notre Père céleste, Dieu le Père, un Père céleste parfait, qui veut que nous entrions dans son royaume, qui nous aide, qui nous apporte son soutien pour que nous puissions entrer dans son royaume. Et Dieu notre Père adoptif, il faut que nous puissions comprendre qui il est, sa façon d'agir et ce qu'il attend de nous. C'est très important. Il sait, puisque Dieu est parfait, en plus, Dieu nous connaît parfaitement, individuellement, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Quand son peuple, les Juifs, étaient en captivité, c'était difficile. Ils étaient à Babylone. Mais Dieu se souciait toujours d'eux. Dieu avait un avenir pour eux. Jérémie chapitre 29 et le verset 10. Jérémie chapitre 29 et le verset 10. Nous lisons ceci. Mais voici ce que dit l'Éternel. Donc Dieu l'a envoyé une lettre par l'intermédiaire de Jérémie. Et aux captifs. Donc verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Ils avaient un avenir. Même en captivité, même dans ces conditions difficiles, ils avaient un avenir. Dieu allait prendre soin d'eux. Verset 11. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Et même sur le plan spirituel, il allait leur donner un avenir et de l'espérance, si il le voulait. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captives. Un avenir merveilleux pour son peuple. Et si c'était vrai, et c'était vrai, sur un plan physique, si c'était vrai sur un plan physique pour son peuple physique, c'est aussi vrai pour ses enfants spirituels. Vous rappelez que quelque temps en arrière, j'avais parlé dans Jean chapitre 14, à propos de la place que Dieu prépare pour nous. C'est ce que le Christ a dit. Je vais vous préparer une place. Et le fait de nous préparer une place, bien sûr, passe par le fait d'être en conformité avec sa volonté, comme nous venons de voir dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Le fait d'être en conformité avec la voix de Dieu, avec la volonté de Dieu, signifie que nous voyons, que nous goûtons que la voix de Dieu est bonne, que la voix de Dieu apporte de bons fruits dans notre vie. Jean chapitre 7 et le verset 17, je ne m'y rapporte pas. Jean chapitre 7 et le verset 17 dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Et dans Amos 3, et le verset, chapitre 3, le verset 3, Amos 3, 3, c'est marqué, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. » Nous avons accepté, justement, de marcher avec Dieu, si nous sommes engagés de suivre sa voie, tout cela constitue aussi la volonté de Dieu, de marcher avec lui, d'être sur la même longueur d'onde que Dieu. Évidemment, il y a la réalité de la situation, comme c'est marqué dans Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, dit « Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Notre nature humaine est telle qu'elle est. Dans un certain nombre de domaines, nous voyons ceci dans nos vies. Et il faut se rendre à l'évidence que trop souvent, nous faisons notre volonté, et c'est notre volonté qui l'emporte sur la volonté de Dieu. Mais nous avons Romains chapitre 7 et le verset 25. À la fin du chapitre 7, Romains chapitre 7 et le verset 25, nous lisons ceci, parce que la question est posée dans le verset 24, « Qui me délivra du corps de cette mort ?» Et la réponse, c'est « Grâce » dans le verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est Dieu qui va nous délivrer du corps de cette mort, qui va nous donner la force. Et comme c'est marqué dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dieu nous donne beaucoup d'encouragement pour faire sa volonté. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que nous ne recherchons pas forcément, nous ne recherchons pas toujours la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne, dans notre comportement avec les autres, dans notre observance de la loi de Dieu, de ses commandements, et dans le fait de développer les fruits de son esprit. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître sa volonté. Il faut vouloir faire sa volonté. Colossiens chapitre 1 et le verset 9. Colossiens chapitre 1 et le verset 9. Nous lisons ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il faut premièrement prier pour connaître la volonté de Dieu. C'est important. C'est le point de départ, pour ainsi dire. Il faut prier pour connaître la volonté de Dieu. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous aussi, il faut que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Et le mot traduit ici par intelligence dans la version Shuraki est traduit par le mot compréhension. Et nous allons voir ce mot plus tard dans le sermon. Alors pourquoi? Pourquoi il faut que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté? En toute sagesse et intelligence spirituelle. La réponse nous est donnée toujours par Paul. Paul répond à la question dans le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. C'est le dessein, c'est le but, pour pouvoir marcher. Du reste, le verset 10, c'est un verset très complet. Très riche, très détaillé pour un chrétien. Le verset 10 nous donne le dessein, le but pour pouvoir marcher justement. Le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Il y a un commentaire en anglais qui dit ceci, la mise en pratique de la connaissance concernant la volonté de Dieu, à propos du verset 10. la mise en pratique de la connaissance concernant la volonté de Dieu, pour justement lui être entièrement agréable. Et puis dans le verset 10, je continue à lire, il y a deux clés. Je reprends. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il parle, entre autres, de deux choses dans le verset 10, portant des fruits et ensuite de croître. Parce que c'est deux choses qui sont très importantes, très complètes, très nécessaires dans la vie d'un chrétien, de porter des fruits et de croître. Et puis il parle aussi dans le verset 10, à la fin du verset 10, par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, qui il est, ce qu'il désire justement pour nous et pour l'humanité, comment il agit et ce qu'il attend de nous. La volonté de Dieu. Mais il y a un autre aspect. Il y a la connaissance de Dieu, la connaissance de sa volonté, mais il y a un autre élément que nous allons approfondir, c'est un aspect spirituel. Un aspect spirituel qui nous permet de comprendre davantage sa volonté. Parce que nous avons besoin de croître, nous avons besoin d'acquérir davantage la connaissance de sa volonté pour mieux la pratiquer. Et j'arrive maintenant au titre de ce sermon, comprendre la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu, pas uniquement avoir la connaissance, mais de comprendre la volonté de Dieu. Et j'ai voulu avant d'aller plus loin, j'ai voulu illustrer ce principe par un exemple. Ceci va mieux nous aider à comprendre l'importance de comprendre la volonté de Dieu. Prenons le 9e commandement. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Le fait de mentir. Donc nous voyons bien, c'est clair, très clair ici, que c'est la volonté de Dieu de ne pas porter de faux témoignage, de ne pas mentir. Et nous savons aussi que Satan est le père du mensonge. Donc on commence à comprendre l'importance. Pourquoi Dieu veut que nous comprenions ce commandement d'aller plus loin, parce que sinon, quand on commence à mentir, on va dans la voie de Satan. Colossiens chapitre 3, verset 9, une page plus loin. Donc Colossiens, nous lisons, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes un dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. » Donc, de nouveau l'importance du vieil homme, on tourne la page dans notre vie, on vit autrement. Et on affecte, quand nous mentons, nous affectons la vie des autres. Ils ne peuvent plus avoir confiance en nous s'ils apprennent que nous mentons. Ça déforme le caractère. Ça déforme vraiment le caractère et Dieu veut la droiture, Dieu veut la vérité. Nous prêchons la vérité, nous prêchons la parole de Dieu. Et si nous regardons Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, nous lisons ceci. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a six choses que hait l'Éternel, donc de comprendre pourquoi il ne faut pas porter de faux témoignages, pourquoi il ne faut pas mentir, et nous comprenons qu'il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Verset 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répondent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges. Voilà, dans l'espace de quelques versets, Dieu répète la même chose deux fois. La langue menteuse, le faux témoin qui dit des mensonges. et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, si Dieu est le mensonge, Dieu est la langue menteuse, et c'est répété deux fois dans ces quelques versets, d'où l'importance. Et ça apporte plus de poids pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu ne veut pas qu'un être humain mente, que c'est la volonté de Dieu qu'un être humain ne mente pas. Ça nous aide à comprendre la portée, le poids, les conséquences du mensonge par rapport à la voix de Dieu. Avec ceci en tête, regardons maintenant Romains chapitre 12 et le verset 2. Romains chapitre 12 et le verset 2. Nous lisons ceci. Romains chapitre 12 et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous lire ça dans la version Darby. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, nous voyons ici, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dieu sait ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable pour nous et ce qui est parfait pour nous. Nous sommes dans de bonnes mains et nous pouvons laisser nos vies dans ses mains. Il parle dans le verset 2 de renouvellement, renouvellement de l'intelligence. Louis parle d'un changement, une définition de ce mot, un changement complet pour le meilleur, un renouvellement, un changement complet pour le meilleur, c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous recherchons dans notre vie de chrétien. Et puis le mot entendement que nous avons vu dans la version Darby, le mot entendement, c'est l'aptitude à comprendre. L'aptitude à comprendre, où on est capable de comprendre. Capable de comprendre, et nous cherchons donc à comprendre la volonté de Dieu. À propos du mot transformer, le commentaire Adam Clarke dit ceci, que le mot implique un changement radical, complet et universel, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et tout ceci, pour revenir au verset 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Renouvellement, le fait de comprendre pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Et pour discerner la volonté de Dieu aussi, il nous faut prier. Demander à Dieu de nous aider à comprendre pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir faire sa volonté et qu'il nous donne la force aussi pour le mettre en pratique. Demandez que Dieu nous donne la force pour faire sa volonté. Quand nous regardons bien entendu l'exemple de Jésus-Christ, l'exemple parfait, le Christ a dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable » en parlant de son Père. Il soumettait toujours sa volonté à la volonté de son Père, c'est notre exemple suprême, notre exemple parfait. Mais aujourd'hui, j'ai voulu regarder l'exemple de Josué parce que il est beaucoup question ici dans Josué, dans la vie de Josué, de pratiquer la volonté de Dieu. Au début de sa mission, une fois que Moïse était décédé, Dieu a donné des instructions très précises à Josué, que nous trouvons dans Josué chapitre 1, à partir du verset 2, enfin verset 1. Après la mort, Josué chapitre 1 et le verset 1, et il y a beaucoup de détails qui sont contenus dans ces quelques versets. Verset 1, donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu parle à Josué et il commence en lui donnant des promesses, en répétant des promesses. Tout comme nous, parce que entre ce qui est contenu dans Josué ici et nous, il y a énormément de parallèles. Il y a beaucoup de parallèles. Dieu est le même Dieu et Dieu a la même volonté. Et c'est ce que nous allons voir dans ces quelques versets. Verset 4. Vous aurez pour territoire, Dieu précise, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, la terre promise. Nous, c'est le royaume. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Et ensuite, cette fameuse phrase. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et nous trouvons cette phrase identique avec l'exception de mot « et », identique avec l'exception de mot « et » dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, où il est question de chrétiens. C'est un parallèle très important entre la vie de Josué, l'époque de Josué, et nous, les chrétiens. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu répète, verset 7, d'où l'importance, et c'est aussi important pour nous, de prendre courage, de se fortifier auprès de Dieu. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, de réussir en faisant la volonté de Dieu et en respectant la loi de Dieu, la voix de Dieu. C'est ça, sa volonté. Et c'est exactement la même chose pour nous, maintenant, aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissions dans la vie. C'est ce que nous voyons dans Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Parfois, nous avons un passé qui est lourd, mais même avec un passé qui est lourd, Dieu veut que nous puissions nous en sortir, Dieu veut que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions réussir. C'est ça, sa volonté. Il faut comprendre la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'est que il puisse arriver dans la terre promise. Nous, c'est notre repos, comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 4 et le verset 11. Et Josué, avec les enfants d'Israël, a bien commencé. Il y avait Jéricho, ils ont respecté scrupuleusement toutes les consignes que Dieu a données. Et en respectant scrupuleusement les consignes, Jéricho est tombé. Les murs sont tombés et ils ont pu capturer et détruire la ville de Jéricho. Mais il y a eu aussi des revers. Il y a eu Haï et Akan à pêcher. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu prendre Haï dans un premier temps. Il y a eu les Gabonites qui ont employé une ruse. Et avec le cas des Gabonites, ils n'ont pas respecté La volonté de Dieu n'a pas été respectée. Nous aussi, nous avons nos revers. Mais Josué a continué. Josué a avancé et Josué a continué à respecter la volonté de Dieu par la suite. C'est la même chose pour nous. Nous avons des revers, mais il faut aller de l'avant, il faut laisser ces revers derrière nous. Et il nous faut changer dans certains cas. Il nous faut changer, laisser ces revers derrière nous et aller de l'avant. Et Dieu a soutenu Josué d'une façon extraordinaire. Je vous rappelle qu'il y avait le jour le plus long, si je puis dire. Josué a demandé quelque chose d'extraordinaire auprès de Dieu. Parce qu'il comprenait la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Josué, chapitre 10, et le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. C'était en conformité à la volonté de Dieu. Il comprenait ceci. Et nous, pour respecter la volonté de Dieu par moment, nous pouvons demander à ce que Dieu intervienne pour que nous puissions respecter justement sa volonté. Chapitre 11 et le verset 6. Josué a compris que c'était pas la puissance de Dieu qu'il allait réussir, qu'il a réussi. Chapitre 11, le verset 6. Ici, face à une grande armée, l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tout frappés devant Israël, tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu le char. » C'était pas la puissance de Dieu. Et Josué était fidèle à ses instructions qu'il a reçues au début de sa mission. Verset 15, toujours chapitre 11 et le verset 15, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse son serviteur et de Moïse à Josué. Et ensuite, un témoignage extraordinaire, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il était vraiment, vraiment fidèle. Il n'a pas oublié les instructions. Il était béni en conséquence. Il était béni en conséquence. Verset 16. C'est ainsi, parce qu'il était fidèle, parce qu'il ne négligeait rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, c'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne Nou qui se lève à Seir, jusqu'à Baal-Gad dans la vallée de Liban, au pied des montagnes d'Hermon. Il a vraiment, vraiment réussi. C'était une cause et effet. C'est ainsi. Dans le verset 16. Et nous, c'est pareil, nous pouvons réussir avec l'aide de Dieu parce que nous sommes fidèles. C'est ça la volonté de Dieu, d'être fidèle avec ses commandements. Et Dieu va nous bénir à ce moment-là. Josué a compris, nous pouvons comprendre. Josué chapitre 24, c'est le chapitre qui parle juste avant sa mort. Josué chapitre 24, le peuple ici retrace leur histoire. Le peuple retrace leur histoire avec la main de Dieu. Chapitre 24, le verset 12. Ici, c'est Josué qui parle dans un premier temps, à la fin du verset 11. Je les livrerai entre vos mains, on voit donc l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu. Et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face comme les deux rois des Amoriens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, les villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Et après, le peuple prend la parole, et nous voyons dans le verset 15, de nouveau, cette fidélité de Josué. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il parle donc à Israël, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est resté fidèle, il a compris la volonté de Dieu, il a pratiqué la volonté de Dieu, et il est resté fidèle. Verset 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui. Donc ils ont remémoré le passé, ils ont réfléchi sur ce qui est déjà arrivé. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ils ont vu les miracles. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu duquel nous avons passé. Ils étaient conscients que Dieu était là, que Dieu est intervenu. Et c'est bon aussi pour nous de nous rappeler les interventions de Dieu dans nos vies. Les miracles où il a clairé le chemin pour que nous puissions continuer à avancer, pour que nous puissions continuer à faire, pratiquer sa volonté. Verset 21. Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Et Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Il répondit, « Nous en sommes témoins. » C'est ce que Dieu veut pour nous aussi, que nous qui avons choisi l'Éternel pour le servir. C'est là aussi la volonté de Dieu. Il y a un deuxième exemple dont j'ai voulu vous parler, c'est l'exemple de David. L'exemple de David, et je vais commencer avec le chapitre 13, acte chapitre 13, et le verset 22, qui décrit le caractère même de David, le caractère vis-à-vis de Dieu, dans Actes chapitre 13 et le verset 22. Actes 13, 22. Puis l'ayant, je saute au milieu du contexte, puis l'ayant rejeté, il leur suscita, donc Saul, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. C'est le point de départ pour comprendre la vie de David vis-à-vis de Dieu. C'est bien marqué toutes mes volontés. C'est marqué au pluriel. Mais comment ça s'est manifesté? Dans Un Roi, je m'y rapporte pas. Un Roi chapitre 15 et le verset 5, la Bible dit ceci. Un Roi chapitre 15 et le verset 5, car David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements. Nous trouvons la même chose qu'avec Josué. Il était fidèle. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uriel le Héthien. Et bien sûr, dans l'affaire d'Uriel le Héthien, David a payé un prix très élevé. Il a payé d'une façon très très chère. Il s'est repenti comme peu de personnes, comme peu d'êtres humains se sont repentis, et il est revenu à Dieu. Mais le témoignage de Dieu est éloquent à propos de David. Et dans le psaume chapitre 40, nous voyons cette relation intime exceptionnel qui existait entre David et son Dieu. Dans Psaume chapitre 40, par exemple, le verset 6, nous voyons son élan vis-à-vis de Dieu. Tu as multiplié éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Il avait ça dans le cœur. Il était proche de Dieu. Il louait Dieu. Verset 12. Toi, éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Il vivait ceci, il croyait et il vivait la bonté, avec la bonté et la fidélité de Dieu. Et maintenant le verset 9, c'est l'écriture que j'ai voulu souligner dans ce chapitre. Psaume, donc toujours chapitre 40 et le verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Nous voyons ici le lien qui existait entre le fait que la loi était dans son cœur et le fait qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Lorsqu'Esteval dit ceci, « Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Automatiquement, il était animé par le fait de vouloir pratiquer la loi de Dieu, vouloir faire la volonté de Dieu. Le Darby dit ceci, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. C'est le point de départ. Il avait la motivation et il réussissait à faire la volonté de Dieu parce qu'il avait cette motivation. Psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10, nous voyons la suite ici, parce qu'il avait la loi de Dieu dans son cœur, parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Il priait aussi dans Psaume 143, et le verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, parce qu'il avait cette relation intime avec Dieu. Il avait un contact très étroit avec Dieu. Et il a réussi parce qu'il avait ce contact. Il y a un passage qui nous démontre des choses supplémentaires à propos de la volonté de Dieu. Et que nous trouvons dans Michée chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Michée chapitre 6, Versets 6 à 8. Je commence à lire avec le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Dieu ne voulait pas des sacrifices juste pour le fait d'offrir des sacrifices. Verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et Dieu ne voulait certainement pas le sacrifice des enfants, et parfois les enfants d'Israël ont pratiqué ces sacrifices d'enfants. Ils n'avaient pas compris le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Le dessein de Dieu pour l'humanité a toujours été, et il est toujours, le fait de développer son caractère en nous. Et Dieu définit ce qui est bon pour lui, ce que Dieu veut. Verset 8. Dieu le définit. Verset 8. On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Trois choses qui sont mentionnées. C'est que tu pratiques la justice. Nous revenons encore avec la même chose. Nous retrouvons la même chose que nous avons déjà vu avec Josué et avec David. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu aimes la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Et c'est marqué dans la Bible que la miséricorde triomphe du jugement. Et pas uniquement est-ce que Dieu veut que nous soyons miséricordieux, mais que nous aimons la miséricorde dans nos vies. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a un passage que nous pouvons mettre de pair avec ce passage, c'est l'Écriture, et qui se trouve dans Matthieu chapitre 23 et le verset 23. Je m'y rapporte pas, nous le connaissons probablement par cœur. Matthieu chapitre 23 et le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Voilà ce que nous retrouvons par rapport à ce que nous venons de voir dans Michée. La justice, la miséricorde, les deux choses qui sont mentionnées, qui sont identiques, et le troisième qui est différent, et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, parce que c'est la base, sans négliger les autres choses. Dieu nous fait comprendre sa volonté. Et Dieu nous a donné la possibilité de choisir, de désirer et de choisir de faire sa volonté volontairement et régulièrement. Nos libertés ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu. Psaume 63, verset 1. Psaume 63, et le verset 1. Nous voyons ici le désir, justement, de David. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Il sera rassasié. Il sera rassasié parce que il a été rassasié parce qu'il a recherché son Dieu. Et Dieu dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Mais pour cela, il faut aussi se soumettre à la volonté de Dieu. Comme j'ai dit, Dieu nous a donné le choix. Nous le recherchons et ça prend évidemment du temps. Ça prend du temps, nous connaissons la formule et sa volonté est déjà révélée dans sa parole. Nous étudions la parole régulièrement, la parole de Dieu régulièrement, parce que sa parole est sainte, parce que la parole dans la Bible vient de Dieu, et nous étudions sa parole pour voir sa volonté révélée dans sa parole. Nous prenons, ça prend du temps, nous prenons du temps aussi pour méditer, et nous prenons bien entendu du temps pour prier. De demander pas uniquement des choses physiques pour nous-mêmes, mais de demander aussi que Dieu nous montre ce qu'il veut que nous fassions, que Dieu nous montre sa volonté, que ce soit clair pour nous, et aussi, et ça aussi, ça prend du temps, de jeûner régulièrement. Comment est-ce que cela se concrétise, la volonté de Dieu, dans nos vies quotidiennes? Il y a deux exemples que je vais vous donner. Deux exemples très clairs, et c'est des domaines qui sont assez vastes. Et le premier exemple se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 17. Nous lisons ceci. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Là, c'est écrit en toutes lettres, c'est très, très clair. Donc, de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le remerciement à Dieu, le fait de rendre grâce à Dieu, devrait composer une partie importante de nos prières. De prendre le temps de remercier Dieu dans les détails. C'est marqué ici, en toutes choses. De remercier Dieu le matin et de remercier Dieu le soir avant de se coucher. Il y a des multiples raisons de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. De mettre en perspective ce que nous avons par rapport à ce que nous n'avons pas. Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne notre pain quotidien. Rien que cela, c'est vraiment des raisons profondes pour remercier Dieu. Et en remerciant Dieu, lorsque nous prions, ça va orienter nos esprits avant que nous demandions des choses peut-être spécifiques pour nous. Ça va nous aider. Ça va nous mettre, orienter notre esprit dans la bonne direction. Ça, c'est la première chose, donc, de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est un vaste sujet. Nous trouvons un deuxième exemple, un exemple où c'est très clair, très précis, dans Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 5. Éphésiens chapitre 6 et le verset 5. Je prends ici le principe pour quelqu'un qui est au-dessus de nous. Évidemment, nous ne sommes plus des esclaves, sur un plan physique. Mais dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est ça le principe qu'il faut retenir quand nous travaillons comme à Christ, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur, quoi? La volonté de Dieu. Servez-le avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Et dans la version seconde, 21, nous lisons ceci, servez-les avec bonne volonté comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Et dans le verset 8, il y a une récompense qui est mentionnée. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait du bien. Je voulais terminer ce sermon en parlant d'une promesse de la part de Dieu, une promesse magnifique, positive et très encourageante, qu'il nous faut garder à l'esprit, justement, surtout dans des moments difficiles. Et cette promesse se trouve dans 1 Jean chapitre 5, à partir de verset 14. 1 Jean chapitre 5, à partir de verset 14, où nous lisons ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous pouvons avoir confiance, l'assurance, la confiance. Nous venons devant le trône de grâce, comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Donc nous pouvons demander quelque chose selon sa volonté, et il nous écoute, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et nous pouvons donc venir devant Dieu et demander selon sa volonté et il nous écoute.